Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais vous partager une histoire bien connue. C'est la guérison du paralytique à Bethesda. Voilà, donc c'est une histoire bien connue. Et comme c'est une histoire bien connue, c'est plus facile de vous raconter. Et est-ce que tu peux aussi mettre sur le projecteur, voilà, plutôt la troisième image. Voilà, ça, il y a le vestige de Bethesda qui est encore là. Donc, tu peux encore passer. Une autre image de vestige de Bethesda, là, où justement les gens venaient se purifier. Et puis, alors, où se situe cette Bethesda? Tu peux montrer aussi la carte. Vous voyez que c'est Jérusalem avec ses remparts, ses murs. Et il y a aussi le temple de Jérusalem. Vous voyez aussi la porte de brebis, des brebis, justement. C'est par là qu'on faisait entrer les sacrifices. Et en haut des portes des brebis, il y a la piscine de Bethesda, avec ses saints portiques. Donc c'est là où, justement, à l'époque, beaucoup de malades, à l'époque de Jésus, beaucoup de malades graves, comme des aveugles, des estropiés, des paralytiques, venaient à Bethesda pour être guéris, en attendant un miracle. Apparemment, il y avait, ils attendaient tous le mouvement de l'eau. C'est-à-dire, je vous lis au verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Merci. Donc c'est dans Matthieu, chapitre 5. Lors d'une fête juive, Jésus arrive à Jérusalem. Et on pourrait penser que voilà, on pourrait imaginer beaucoup de juifs qui viennent de tous les endroits, de différentes diasporas, dans les environs, pour louer le Seigneur. Et on pourrait aussi penser que puisque Jésus vient aussi au temple, il est là pour prier à son Père. Mais il ne va pas directement au temple. Le premier endroit où il va, c'est à Bethesda, là où il y avait beaucoup de malades. En général, vraiment, c'était un endroit où il y avait des estropiés, des paralytiques, des gens qui demandaient de l'aumône. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément un endroit où on aimerait y aller. Mais lui, il y va parce que c'est là où il y a des gens qui ont besoin d'aide. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Mais malheureusement, ce n'était pas un lieu où il y avait beaucoup de miséricorde. Oui, certes, Dieu accordait sa miséricorde pour guérir certains malades. Mais l'ambiance de l'époque n'était pas du tout miséricordieuse, puisque les gens étaient en compétitivité par rapport aux autres personnes. Seule une personne était guérie. Donc, il y avait cet esprit de rivalité, et puis, pas de miséricorde. On voit d'abord apparaître donc un homme paralytique qui espère être guéri. Lorsque Dieu fait, au verset 5, on reste, voilà, merci. Ah, oui, c'est dans Jean 5. Tu peux rajouter, voilà. Ah oui, c'est dans Jean, pardon, j'ai dit Matthieu. C'est dans Jean, c'est seul épître, l'évangile, où on voit apparaître cet événement. En fait, il n'y a pas d'autre, c'est seulement dans Jean. Et verset 5, là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Voilà, on voit apparaître un homme qui est malade depuis déjà 38 ans. Vu sa maladie, vu son handicap, il ne travaillait pas. Il devait survivre avec des aumônes qu'on lui offrait. Il a dû vraiment passer la plus grande partie de sa vie en demandant de l'aumône, en espérant que le Seigneur le guérisse un jour. Et peut-être pendant ces 38 ans, il était dans la piscine de Bethesda. Et durant tout ce temps, il a dû aussi voir plein de personnes être guéries. Mais lui, il ne pouvait pas saisir cette occasion de guérison parce qu'il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas entrer dans la piscine lorsque l'ange faisait bouger l'eau.
Ça devait être vraiment une torture de voir les autres malades guérir, alors que lui, ben le Seigneur n'agit pas. Et ou en tout cas, lui, il ne peut pas vraiment se déplacer pleinement à cause de sa paralysie, et du coup, il se sentait vraiment désespéré. Cela faisait vraiment longtemps qu'il était malade, 38 ans. Il voyait longtemps les autres être guéris. Il devait être vraiment frustré, désespéré, car la réalité pour lui était vraiment dure. D'ailleurs, je vous avais dit que c'était un endroit de grâce, ou plutôt la maison de grâce, mais il n'y avait pas de grâce. Comme je vous avais dit, il y avait cet esprit de compétitivité. Donc, chacun pour soi. Et tout le monde voulait être guéri. Personne n'était disposé à l'aider pour le transporter dans l'eau, lors du mouvement de l'eau. Et puis, Jésus arrive. Dans cet endroit, il y avait plein de malades. Est-ce que tu peux mettre... voilà, ok. Ou plutôt l'image suivante. Ouais. Jésus arrive et le voit. Il voit cet homme paralytique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là, qui est malade, il n'a rien demandé. C'est Jésus qui est venu en premier. Et c'est lui qui demande ainsi, « Veux-tu être guéri ?» Ce serait super que le Seigneur vienne nous faire cette demande alors que nous n'avons rien demandé. Normalement, devant cette question, il aurait dû dire, « Oui, je veux être guéri. » Mais il ne dit pas ça. Il dit au verset 7, le malade donc lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ici, il raconte sa frustration. Au lieu de dire, « Oui, Seigneur, je veux être guéri. » Non, il raconte sa frustration, ses difficultés, son désespoir. Et voilà, je comprends aussi sa réaction, hein, sa réponse, puisqu'il est tellement déçu par sa situation, il n'ose peut-être plus espérer de guérison. Ce qui est rassurant ici, c'est que Jésus voit tout. Jésus voit sa situation de détresse. Il sait tout de nous aussi, notre passé, nos péchés, nos défauts, mais notre désir, notre ambition, notre sujet de prière. Et Jésus regarde cet homme paralytique depuis 38 ans, pas comme les autres le voient. Les autres le voient comme un malade, comme un désespéré, comme quelqu'un qui est malade d'une maladie incurable. Mais Jésus le voit comme quelqu'un qui pourrait justement devenir normal. Et il voit un avenir merveilleux pour lui. Peut-être lui-même, il est tombé dans l'esprit de défaitiste, je ne sais pas, dans le désespoir total. Mais lui, il ne voit pas comme ça. Et au verset 8, il dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Jésus réalise un miracle. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que il n'avait pas la foi. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. C'est Jésus qui est venu vers lui. Donc, cela veut dire qu'il a été guéri sans la moindre parcelle de foi. Ce qui montre que c'était une démonstration de pure grâce de la part de Jésus, une manifestation de la gloire de Dieu. C'était une guérison physique, pas tout son corps, c'était pas du tout une guérison spirituelle, c'était une guérison physique. Devant ce miracle, beaucoup de gens étaient étonnés, puisqu'on le connaissait très bien. Pendant 38 ans, il était là en train de demander de l'aumône. Les gens le connaissaient tous. Et là, on le voit marcher. Quel miracle! Devant cette scène, ils auraient dû, en tout cas les Juifs, auraient dû glorifier Dieu, acclamer Dieu, applaudir, merci Seigneur. Au verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Mais au lieu de féliciter, qu'est-ce qu'ils font? Au verset 10 et 11, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Là, ils ne parlent même pas de guérison. Hein? Ils ne sont pas du tout émerveillés par ce qui vient de se produire. Ils voient ce qui ne va pas. C'est le jour de sabbat et on ne travaille pas. Et toi, tu marches avec ton lit. Certes, dans la parole de Dieu, pour le jour de sabbat, il y a à peu près 39 recommandations de ce que les gens devraient faire. Et parmi les 39 recommandations, les Juifs devaient faire ceci, c'est-à-dire dans Jérémie 17, 21, il est dit « Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'introduisez point par les portes de Jérusalem. » C'est-à-dire qu'il ne fallait pas porter des choses le jour du sabbat et surtout entrer avec ces choses dans Jérusalem. Mais lui, il est entré dans le temple. C'est comme s'il avait enfreint la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'on connaît, si on ne connaît pas la culture juive, on ne sait pas ce que ça veut dire le jour du sabbat. En fait, à l'origine, pourquoi le Seigneur a créé le jour du sabbat? Tout simplement parce que le jour du sabbat a été conçu pour que l'homme, comme vous et moi, puisse se reposer et passer du temps dans l'adoration de son Dieu. Ce matin, on a beaucoup parlé de l'adoration de Dieu. Dieu a accordé le jour de sabbat pour qu'on puisse vraiment le rencontrer personnellement, intimement, et l'adorer, le louer. Mais le Seigneur connaissait aussi l'endurcissement du cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il a mis plein de lois pour que les gens puissent à peu près respecter sa volonté. Mais la volonté première de Dieu, c'est que les hommes rencontrent le Seigneur, qu'ils soient restaurés. Et les Juifs ont mis la priorité sur les règles, sur la loi, alors que pour Jésus, c'était la restauration de l'homme qui était plus important, c'était la vie qui était plus important. Jésus, après avoir établi plein de miracles, il dit aussi aux Juifs, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Mais les Juifs ne voyaient pas cela. Ils étaient même en colère contre cet homme guéri, au lieu de se réjouir pour cette guérison. Cette histoire me rappelle un peu le danger de ne pas être dans la vérité. Le danger d'être un petit peu dans la déviance. Au XXe siècle, vous savez très bien que la plus grande atrocité que les hommes ont pu commettre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et vous connaissez aussi Auschwitz, vous connaissez le Shoah qui a été pratiqué. Hein? Et parmi toutes ces personnes allemandes qui ont organisé ça, il y a surtout un homme qui s'appelle Adolf Eichmann. C'est lui qui avait pensé, c'est lui qui a tout systématisé pour tuer le maximum de personnes possibles, des Juifs. Et donc, il avait réussi, il a été promulgué, il a été mis de différents endroits, justement, pour que sa méthode, son système soit efficace pour tuer le maximum de personnes possibles. Ensuite, la guerre a été terminée et il s'enfuit en Argentine. Finalement, il se fait attraper. Et il est rapatrié à Jérusalem. Là, il rencontre une personne, une juive allemande, qui s'appelle Anna Arendt. C'était une politologue, une philosophe et aussi une journaliste allemande, enfin juive allemande. Et elle écrit un livre. Un livre qui dit « Eichmann à Jérusalem ». Et en discutant avec lui, qu'est-ce qu'elle découvre? En fait, elle découvre quoi? Un homme normal. Un homme qui n'est ni un criminel né, il n'est ni un malade mental, mais un simple, ou plutôt une simple machine bureaucratique aveuglée par le système. et aussi celui qui a aussi commis, ou plutôt il a perdu toute idée d'éthique parce qu'il était dans ce système. Il a obéi tout simplement et aveuglément aux règlements et aux lois promulguées par le gouvernement légalement élu. C'est la raison pour laquelle Eichmann pouvait affirmer devant le tribunal en toute tranquillité en disant qu'il n'était pas sorti de la légalité du Troisième Reich. C'est ainsi que Arendt, cette politologue, cette philosophe, cette écrivaine, cette journaliste, a créé ce concept en disant la banalité du mal. La banalité du mal. C'est vrai, cet homme Eichmann n'était pas un démon, il n'était pas du tout le mal incarné, mais à cause d'une fausse idéologie, en étant dans ce système, il est devenu le démon pour tuer le maximum de personnes possible. On voit bien que combien une mauvaise idéologie, les règlements, peuvent apporter et faire du mal à l'homme au lieu de faire restaurer l'homme. Je reviens encore à l'histoire de départ. Les Juifs, eux, ils se focalisaient sur la loi, les règlements qu'il fallait respecter. Alors que, au lieu de voir justement la grâce de Dieu, au lieu de voir le miracle qui vient de se produire, au lieu de remercier, adorer, comme nous venons de faire ce matin, notre Dieu qui réalise, qui est présent à nos côtés pour nous soutenir. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont vu un petit problème. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 12, ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a fait? Prends ton lit et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Un peu plus tard, Jésus le revoit. Où ça? Dans le temple. Verset 14, enfin, il a été guéri et heureusement qu'il l'a rencontré de nouveau dans le temple. Parfois, on peut expérimenter quelque chose de très fort et être loin du temple. Mais en tout cas, lui, il est resté quand même dans le temple. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. » Hein, c'est vrai, tu as été guéri maintenant, tu devrais être content. « Ne pêche plus. » Le message, le premier message que Dieu, Jésus, lui adresse, c'est « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Qu'est-ce qui pourrait être encore pire que d'être malade pendant ces 38 ans? En fait, là, avec cette phrase « Ne pêche plus », il veut l'induire dans la repentance. Il veut l'induire pour qu'il puisse accepter comme Sauveur et Seigneur Dieu comme maître de sa vie. Pas lui qui est le maître. Il veut vraiment l'inviter à avoir cette vie éternelle. Cette vie éternelle. Cette phrase « ne pêche plus » veut dire « t'as besoin du pardon de Dieu. » Bien sûr, on ne peut pas ne pas pécher. On reste toujours pécheur. Personne n'est juste. Mais on reste un pécheur justifié par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce Jésus. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Par la foi en Jésus, même si nous restons toujours pécheurs, par la foi en Jésus, nous devenons un pécheur justifié. Ainsi, ne pêche plus. C'est rester dans la justice de Dieu et améliorer. Montrer la conséquence de ce changement, de cette repentance. C'est ce que le Seigneur lui demande, en fait, à cet homme qui vient d'être guéri. Le Seigneur dit, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, l'histoire du démon qui est sorti et finalement, quand il revient, ben, il voit que que l'homme en question est nettoyé. Du coup, il sort encore et il ramène encore cet autre démon. Et sa situation devient pire. Dans Matthieu 12, il est écrit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Autrement dit, une fois que peut-être vous avez vécu une expérience particulière de repentance avec le Seigneur, une fois que votre cœur est nettoyé par le sang du Christ, il faut maintenant accepter, laisser remplir par l'Esprit de Dieu, laisser remplir par Dieu, pour qu'il soit le maître de votre vie, de notre vie, de ma vie. Je continue la lecture. Au verset 15, cet homme donc s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quand j'ai lu cette phrase, tout d'abord je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui a cafeté en disant que, ah non, ne me tuez pas parce que c'est pas ma faute si j'ai pris mon lit et que je marche et que je suis guéri au jour de sabbat. Non, en fait, là, j'ai l'impression quand même, il veut surtout témoigner celui qui m'a guéri. On voit bien un changement dans son état, dans son attitude. Là, non seulement il a expérimenté la guérison physique, mais aussi il vient d'expérimenter avec la rencontre, la vraie rencontre avec Jésus, un renouvellement spirituel. Et son désir, c'est aussi de témoigner auprès des personnes. Et la première personne à qui il témoigne, c'est auprès des responsables juifs. Mais malheureusement, ces responsables juifs étaient aveuglés. Aveuglés comme Eichmann, qui a commis des erreurs. Pour eux, c'était le sabbat, le règlement sabbat, le respect du sabbat était plus important que la grâce de Dieu. Et pour eux, Jésus avait enfreint la loi. Alors Jésus leur dit, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Il est en train de dire, oui, mon Père. Il appelle Dieu mon Père. Il rappelle l'œuvre créatrice de Dieu, le Père. Et de même, il s'associe à son œuvre. À son œuvre. Autrement dit, il est en train de faire la volonté du Père. Et au verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les Juifs faisaient beaucoup d'efforts pour respecter le jour de sabbat. Vous savez, parfois, ils calculaient le nombre des pas pour ne pas dépasser. C'est-à-dire que vous avez allumé le feu, vous avez fait quelques pas, et puis vous avez oublié, enfin, et puis en calculant, vous ne pouvez plus. Donc il fallait que vous vous assiez et que, jusqu'à ce que vous demandiez à quelqu'un d'autre. Enfin bref. Ne pas connaître la vérité est tellement dangereux. On peut travailler avec diligence pour le Seigneur, soi-disant pour le Seigneur, mais si on n'est pas vraiment dans la vérité, si on ne comprend pas très bien la volonté de Dieu, on peut devenir comme cet Adolf Eichmann qui est dans l'erreur. Vous voyez donc, nous avons vu combien une mauvaise idéologie, une mauvaise religion peut faire du mal au monde et à mon prochain. J'aimerais conclure. Jésus, au moment de la fête religieuse, le premier endroit où il va, c'est auprès des personnes qui sont démunies, qui ont besoin d'aide. Il est là à les entendre, à les écouter. Il voit leur misère, il voit leur souffrance, Il voit notre souffrance. Il nous connaît très bien. Et son désir premier, c'est de nous restaurer, de nous faire un miracle, non seulement pour notre guérison physique, mais aussi surtout notre guérison intérieure, notre guérison, notre pour que nous puissions avoir cette vie éternelle. Et ainsi, comme la transformation de cet homme malade qui a justement est devenu un participant à l'œuvre de Dieu, que nous puissions avoir vraiment apporté plein de témoignages auprès de ceux qui nous entourent. J'aimerais terminer encore cette image avec cette image de parabole de la vigne dans Jean 15, où il dit « Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. » Que nous puissions vraiment inviter le Seigneur à entrer dans notre vie pour qu'il soit le maître. Et ainsi, nous pourrons justement nous réjouir de toute cette bénédiction spirituelle. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as accompli sur la croix, mais aussi tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, pendant que tu étais sur cette terre pour nous enseigner. Seigneur, oui, tu ne veux pas que nous soyons dans l'erreur ou nous tombions dans le formalisme, mais plutôt que nous puissions regarder ce qui est le plus important, le fond, et que non seulement tu nous invites à regarder à l'essentiel, à la grâce de Dieu, mais tu nous invites aussi à expérimenter cette grâce que tu nous accordes abondamment. Seigneur, sois avec nous et aide-nous à être vraiment des participants à l'œuvre, à ton œuvre et suivre ta volonté en laissant plein de place dans notre vie pour que tu diriges ma vie entière. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux... Est-ce que je